Le journal présenté par Antoine Marette.
Bonsoir. L'information vient de tomber, sans surprise, Kenyatta est réélu président du Kenya, une réélection qualifiée de mascarade par l'opposition. Un nouveau drame lié aux migrations, 300 personnes qui tentaient de fuir leur pays ont été jetées à la mer par des passeurs cette semaine au large du Yémen. Au moins 50 personnes ont péri et d'autres sont toujours portées disparues. Des porcs seront peut-être bientôt en mesure de vous sauver la vie. Deux scientifiques américaines ont réussi à faire en sorte que des organes de porcs génétiquement modifiés deviennent compatibles avec ceux des humains. Le but, c'est de permettre des transplantations d'organes de ces animaux vers des humains en demande. De vives tensions au Kenya en ce jour d'élection générale, et c'est en particulier la présidentielle qui retient toutes les attentions. Les résultats viennent de tomber, sans surprise. C'est le chef de l'État sortant, Uhuru Kenyatta, grand favori, qui remporte le scrutin. Il est réélu avec 54,27% des voix. Et d'ores et déjà, l'opposition qualifie cette élection de mascarade. Bonsoir Bruno Meyerfeld.
Oui, bonsoir.
Vous êtes notre correspondant à Nairobi. Résultat à peine dévoilé, déjà contesté.
Oui, alors il y a à peine une demi-heure, Uhuru Kenyatta, réélu président du Kenya avec 54% des voix contre 44% pour son adversaire, l'opposant Raila Odinga. L'annonce a été accueillie au siège de la commission électorale par des chants, des applaudissements, des vivas. Alors Kenyatta a l'air satisfait, à remercier Dieu, les Kenyans, ses militants, après cette campagne qualifiée par lui-même d'épuisante. Il a appelé à la paix et au dialogue, tendu la main vers son opposant, mais sa victoire, vous l'avez dit, elle est déjà très contestée. Plutôt dans la soirée, un ténor de l'opposition avait qualifié le scrutin de mascarade, de désastre, dénoncé des fraudes, appelé les militants à la mobilisation et refusé tout recours en justice. Résultat, à l'heure qu'il est, dans les bidonvilles de Nairobi et Kisumu, la grande ville de l'ouest du pays, fief de l'opposition, des supporters de Dinga seraient déjà en train de descendre dans les rues. La police aurait commencé à intervenir. Ici à Nairobi, on entend des coups de feu au loin, des tirs de gaz lacrymogène. Il y aurait des premières émeutes, des scènes de pillage. Alors, les rapports sur place sont encore très confus, mais la nuit risque d'être longue ici à Nairobi.
Merci à vous, Bruno Meyerfeld. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Nairobi, au Kenya. Un nouveau drame lié aux migrations. On a appris que près de 300 personnes qui tentaient de fuir leur pays ont été jetées à la mer par des passeurs cette semaine au large du Yémen. Au moins 50 personnes sont mortes et d'autres sont toujours portées disparues. Selon l'Organisation internationale des migrations, ces réfugiés étaient d'origine éthiopienne ou somalienne. Les migrants en provenance de la Corne d'Afrique empruntent depuis longtemps cette route vers les pays du Golfe plus riches. Le mouvement ne faiblit pas en dépit de la guerre civile au Yémen. L'OIM estime à 55 000 le nombre de personnes arrivées. Léonard Deuil est le porte-parole de l'OIM à Genève. Il est interrogé par Jacqueline Fardel.
C'était utilisé depuis longtemps. Ce qui a changé, c'est que la guerre devient plus dangereuse. Il y avait beaucoup de problèmes avec le choléra et la famine. Et c'était toujours dangereux. Maintenant, on voit l'attitude de ces passeurs. C'est qui est franchement horrible. La guerre au Yémen donne une occasion, mais ça crée des dangers extraordinaires.
Est-ce que les migrants qui prennent cette route vers le Yémen ont conscience de cette situation sur place?
C'est surtout des jeunes hommes de 16 ans, plus ou moins, qui ont des contacts, la famille peut-être, en Arabie Saoudite, qui ont reçu des messages, probablement à travers WhatsApp ou un de ces réseaux sociaux, et qui disent, tiens, il y a des travaux ici, vous pouvez venir. Et ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui se passe. Ils ne savent pas quels sont les dangers. Même s'ils arrivent en Yémen, il y a toujours des autres problèmes avec les passeurs. La plupart sont des migrants économiques, si vous voulez, qui essaient de passer vers les pays du Golfe. Souvent, on les traite d'une manière terrible et ils décident de retourner chez eux. Mais c'est à cause de la guerre civile, il y a une confusion énorme pour ces jeunes. On ne peut pas faire grand-chose pour eux, sauf on essaie de communiquer avec les familles en Somalie et en Éthiopie, mais c'est très difficile parce que souvent, ils n'ont même pas les papiers avec eux.
C'est un rapport inquiétant sur la Centrafrique qu'un groupe de réflexion vient de publier. On y évoque la prolifération de groupes armés, une partition effective du pays pour le contrôle des ressources naturelles. La violence vise parfois même des humanitaires et des casques bleus. On a appris hier la mort de 6 volontaires de la Croix-Rouge. Une trentaine d'ONG publie un communiqué aujourd'hui pour dénoncer les violences à l'égard des civils. Le point avec Élise Delève.
La Centrafrique est le pays le plus dangereux au monde pour les humanitaires. Plus de 180 incidents, attaques ou assassinats depuis le début de l'année. Avec ce communiqué, Duccio Staderini, coordinateur des ONG internationales en Centrafrique, veut que l'on arrête de banaliser la violence dans ce pays.
On est loin de couvrir l'intégralité des besoins en Centrafrique. On a des évacuations régulières, y compris cette semaine, d'un certain nombre de lieux. Rien que dans les derniers mois, on a 8 préfectures sur 16 qui ont été affectées par la violence et qui nous ont obligés à réduire notre présence, voire à suspendre des activités vitales. C'est ça notre cri d'alarme. Nous, déjà, on demande de pouvoir faire notre boulot et ce serait déjà un soulagement pour les populations victimes de cette violence.
La semaine dernière, 6 volontaires de la Croix-Rouge ont été tués lors d'une attaque d'un centre médical. Que peut-il y avoir de pire, s'interroge Duccio Staderini. Le coordinateur demande à ce que le droit humanitaire soit respecté. Cela veut dire garantir un accès sécurisé des civils aux secours d'urgence et aux services de base. Selon l'ONU, la moitié de la population centrafricaine a besoin d'une aide humanitaire pour survivre.
Si Kim Jong-un s'attaque à Guam, il le regrettera. La phrase est signée Donald Trump. Par ailleurs, le président américain remercie son homologue russe sur le ton de l'ironie, Vladimir Poutine, d'avoir ordonné une réduction du personnel diplomatique américain en Russie, jugeant que la mesure améliorerait les finances de la Maison-Blanche. Le Kremlin a en effet annoncé le 30 juillet dernier que Washington devrait réduire de près de 2/3 son personnel diplomatique en Russie d'ici septembre, et ceci après l'adoption de nouvelles sanctions contre la Russie par le Congrès américain. Voilà une découverte qui pourrait changer la donne pour toutes celles et ceux qui attendent un don d'organes. 2 scientifiques américaines ont réussi à faire en sorte que des organes de porc génétiquement modifiés deviennent compatibles avec ceux des humains. Un travail considérable, mais le jeu en vaut la chandelle, Marie-France Abastado.
La xénotransplantation, c'est-à-dire la transplantation d'organes d'animaux sur des humains, est encore freinée par la possible transmission de virus à l'homme. Mais 2 scientifiques américains de l'Université de Harvard aux États-Unis ont réussi à modifier le génome de porcelets afin que leurs organes soient compatibles avec le corps humain. Ils ont mis au point un nouvel outil de modification génétique qui a permis de désactiver tous les rétrovirus porcins qui pouvaient poser un danger pour l'être humain. Selon l'article publié dans la revue Science, ils ont par la suite procédé à la conception par clonage de 37 porcelets, desquels théoriquement des organes pourraient être prélevés dans le but de les transplanter. Mais tous les dangers ne sont pas écartés pour autant, entre autres celui du rejet de ces organes étrangers par le corps humain. Et si on a déjà transplanté avec succès des cellules de pancréas de porc à des personnes diabétiques ou encore des valves cardiaques, la transplantation d'organes plus volumineux pose toujours problème, rappelle le professeur Jean-Paul Souliou, médecin au Centre de recherche en transplantation et immunologie de Nantes.
D'abord, l'extrême violence, entre guillemets, de la réponse immune contre les tissus génétiquement très éloignés comme celui du porc, qui est progressivement contrôlé. Il y a maintenant des greffes de cœur qui tiennent sur le primate plusieurs années et des greffes de rein presque un an. Donc il y a des avancées très importantes, mais la force du traitement immunosuppresseur pour arriver à ces résultats reste toujours trop importante pour imaginer que ça puisse être tenté chez l'homme rapidement.
Les Français sont de plus en plus nombreux à être en attente d'une greffe d'organes à cause du vieillissement de la population. En 2016, ils étaient plus de 22 600, le rein étant l'organe le plus en demande.
La mort de l'homme le plus vieux du monde, Israël Cristal, est décédé à 113 ans en Israël. Il avait vu le jour en Pologne, il avait été déporté à Auschwitz, il y avait perdu sa femme et ses 2 enfants, seul rescapé de sa famille. Il avait refait sa vie à Haïfa en Israël. Il laisse derrière lui 2 enfants, 9 petits-enfants et 32 arrière-petits-enfants. Demain, de la pluie sur la moitié nord, du soleil sur la moitié sud et des températures indignes d'un mois d'août, seulement 17 degrés à Metz, 20 à Paris, 24 à Toulouse, 29 à Marseille. C'est la fin de cette édition préparée avec Brice Garcia. Prochain journal à 7h, il vous sera présenté par Claire Flochel.